Bayonne, ville épiscopale au XXe siècle, c'est le titre de la conférence que nous vous proposons aujourd'hui. Une conférence enregistrée le 17 novembre 2000 à la mairie de Bayonne dans le cadre de la manifestation Un siècle de vie à Bayonne. Marc Agostino, historien, professeur à l'université de Bordeaux III, spécialisé dans l'histoire religieuse, nous parle donc de Bayonne, ville épiscopale au XXe siècle, permanence de la fonction épiscopale dans cette ville, les grandes figures épiscopales du XXe siècle et les rapports de la ville avec son pasteur, Marc Agostino.
Monseigneur, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'être ici et en même temps un petit peu troublé, car je renvoie, vous savez, à cette pièce amusante sur l'Académie française qui s'intitule « L'habit vert », où la personne qui était intronisée disait « Je dois faire l'éloge de quelqu'un que vous avez beaucoup connu, moi qui ne l'ai jamais vu. » Moi, j'ai beaucoup vu Bayonne, j'ai beaucoup lu sur Bayonne. Je me suis passionné pour ce diocèse, ce département auquel désormais des attaches familiales intimes me lient. Mais je dois dire que je n'ai pas vécu la vie diocésaine et épiscopale de Bayonne. Et donc c'est un regard totalement extérieur que j'apporterai ce soir. Aussi, si je choque l'un ou l'autre d'entre vous, s'il y a quelque incertitude dans mes propos sur tel ou tel endroit, je vous prie d'intervenir à la fin, gentiment, car j'ai traversé les Landes sous la pluie pour venir traiter ce sujet. J'ai donc choisi comme titre, avec l'accord de M. Bidard et de la municipalité bayonnaise, Bayonne, ville épiscopale au XXe siècle. En effet, il ne s'agissait pas de vous parler du vaste diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et je serais contraint d'en parler, car l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron est obligé d'envisager sa pastorale sur l'ensemble du département. Néanmoins, j'ai tenté de focaliser mon propos sur cette caractéristique de la ville de Bayonne d'être une ville épiscopale. Ce qui peut surprendre certains. Je le disais dernièrement à une étudiante basque qui travaille sous ma direction à Bordeaux 3, je lui dis « je vais parler de Bayonne, ville épiscopale ». Oh, elle me dit « c'est surprenant ». Non, ça n'est pas surprenant. C'est la première caractéristique, je crois, de cette ville. C'est une fonction administrative, spirituelle, extrêmement importante. En effet, pour cette belle ville située à ce carrefour de fleuves, ville commerciale, ville aussi de relations, la ville ne serait pas ce qu'elle est si la cité n'était restée ville épiscopale. Civitas episcopi, comme on disait à la fin de l'Antiquité, pour les villes qui subsistaient dans un monde de barbarie, et ville épiscopale vivante. Toute l'architecture de la ville s'ordonne à partir de la cathédrale. Je sais que nous sommes dans la maison commune, qui est absolument superbe, mais tout s'ordonne à partir de la cathédrale. Et si le cœur urbain et architectural de la ville était un cœur vide ou un simple musée, je crois que Bayonne n'aurait pas la même nature et que les mentalités ne seraient pas les mêmes, que vous soyez croyant ou non, pratiquant ou non, que vous soyez de confession juive ou protestante. La fonction épiscopale est donc une fonction essentielle. Bien sûr, il y a eu la séparation des églises et de l'État, la laïcisation de la société, les idées politiques même de la population, qui n'en font pas une ville spécialement catholique, si j'en crois les propos de mon collègue Bernard Lachaise, tout au moins d'un point de vue électoral. Mais Bayonne est tout de même la ville de l'évêque, même si ça n'est pas une ville cléricale. Vous voyez la nuance. Et c'est sur cet aspect donc que je vais essayer de me pencher. Tout d'abord, dans un premier point, je voudrais vous parler de la permanence d'une fonction, la fonction de ville épiscopale, et d'un caractère. Ville épiscopale, vous le savez mieux que moi, je vois des personnes illustres dans cette salle, d'origine obscure. Camille Julien lui-même ne concluait pas sur le point des origines du diocèse de Bayonne. Et l'abbé de Gers éminent érudit landais, très remarquable, qui a fait les notices du grand dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastique, restait lui aussi dans le flou. Ce fut, vous le savez probablement, un siège temporaire, devenu définitif au XIe siècle, à ce carrefour de fleuves, et l'abbé de Gers opte carrément pour la transformation de Lapourdoum, l'évêque du Labour, en Bayona, et pour l'abbé de Gers, pour qui j'ai la plus grande admiration et à qui je ferai plutôt confiance, il dit que ça vient de Ibaïuna, en basque, lieu des rivières. Mais je suppose qu'il y a des tomes de débat là-dessus, donc je m'abrite derrière cette haute autorité. Il est mort depuis longtemps, de toute façon, et cela nous laisse une certaine tranquillité. Alors la légende de Saint-Léon, ou évêque de Rouen, est évidemment une légende fondatrice. Cette légende a sûrement quelque chose de vrai, il y a probablement eu un martyr ici, mais ce martyr est très tardif, puisqu'on le situe au 8e, 9e siècle. Et ça, je crois que c'est aussi une caractéristique de la vie bayonnaise. Vous le savez, ce diocèse n'est devenu une ville épiscopale de plein droit que vers le 11e, 12e siècle, mais je crois que sa grande victoire, c'est de l'être resté. L'être resté à la suite de tractations que je n'ai pas pu élucider, mais que j'espère bien pouvoir élucider prochainement en allant aux archives du Vatican ou en travaillant dans des sources plus fines. Pourquoi diantre Bonaparte a-t-il accepté, avec l'accord de Pie VII, que Bayonne soit le siège épiscopal du sud-ouest de la France? Pourquoi Bayonne? Alors que pendant la Révolution française, l'évêque constitutionnel, je vous le rappelle, siégeait à Oloron-Sainte-Marie. C'est ce choix du Concordat qui est absolument déterminant pour Bayonne. Certes, Bayonne n'a pas gardé le vaste diocèse qui lui était attribué en 1801, puisqu'il s'étendait aux Landes, aux Hautes-Pyrénées et aux Basses-Pyrénées. Mais si Bayonne n'avait pas été gardée comme siège épiscopal, alors que vous le savez bien, elle n'est pas préfecture, elle aurait subi le sort de 70 villes de France qui ont perdu le caractère de ville épiscopale et qui, comme le font remarquer beaucoup d'auteurs, étaient avant la Révolution de petites capitales intéressantes et sont devenues finalement des villes auxquelles il manque un certain dynamisme. Ces villes sont très nombreuses, je ne les citerai pas, depuis Grasse jusqu'à Saint-Pons-de-Thomières. Il y a toute une caractéristique de ces villes qui a disparu. Bayonne conserve donc ce titre, et je pense que c'est un élément déterminant. En 1817, puis en 1822, le roi de Navarre, à savoir Louis XVIII, qui avait redemandé ce titre, conserve bien sûr à Bayonne le titre de ville épiscopale. Peut-être eût-il pu, en mémoire de son ancêtre Henri IV, car on était véritablement tourné vers Henri IV sous la Restauration, c'était vraiment le roi fondateur de tout, peut-être eût-il pu choisir l'Escar en disant « en résidence à Pau ». Eh bien non, le Concordat de 1817, puis le Concordat de 1822, tout en réduisant le territoire épiscopal de cette belle ville de Bayonne, a maintenu le siège ici. Et les souverains pontifes ont évidemment confirmé ce choix et ont toujours accordé à Bayonne un certain nombre de privilèges. Ville épiscopale, je le disais, Bayonne en a tout l'aspect. L'église mère, la cathédrale, certains disent Sainte-Marie, d'autres disent Notre-Dame, structure, je le disais tout à l'heure, tout l'espace. Mais cette structuration de l'espace, c'est parce que Bayonne était au départ un diocèse, mais c'est aussi parce que Bayonne l'est resté. Parce qu'au XIXe siècle, la cathédrale était un petit peu écrasée dans son quartier. Et c'est Monseigneur Lacroix qui, comme le rappelle Jean-Michel Legnaud dans son magistral ouvrage sur les cathédrales au XIXe siècle, a demandé à l'architecte Buswildwald de faire deux flèches immenses pour que la visibilité de l'église diocésaine de Bayonne, pour que le caractère de ville épiscopale se voit en dehors même de cette présence dans la structure. Alors, bien entendu, cela signifie beaucoup de choses dans l'esprit de Mgr Lacroix, il le dit. Présence du christianisme, signe d'union de la foi et de la politique, puisque nous sommes en période concordataire, mais aussi signe de l'union de la raison et du mystère dans l'élévation de ces flèches qui sont, je le répète, volontaires. On a longtemps critiqué le néo-gothique, on a longtemps critiqué les réparations. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'historiens d'art considèrent le néo-gothique comme un art à part entière. Et la cathédrale de Bayonne, je crois, par cette signification spirituelle, par cette élévation, en est véritablement un élément important. Longtemps, le bulletin diocésain portait sur sa première page les deux flèches de la cathédrale de Bayonne. Et l'évêque de Bayonne, longtemps, n'a pas été nommé évêque de Bayonne par le pape lorsqu'il préconisait l'évêque dans les consistoires publics, mais il le préconisait titulaire de l'église cathédrale de Bayonne. Ça veut dire que la notion de ville épiscopale est une notion importante qui remonte jusqu'au plus haut des temps, lorsque, à côté de l'évêque, il y avait son séminaire, tout accolé à la cathédrale, l'école cathédrale du haut Moyen-Âge, devenu peu à peu le séminaire diocésain, toujours présent dans cette ville, et même devenu, nous le verrons tout à l'heure, interdiocésain. Donc je crois qu'il y a une fonction importante. Alors, la présence des religieux n'est pas significative. Les religieux s'installent à Bayonne, à l'époque contemporaine, mais ils s'installent aussi à Pau, il faut bien le dire, à Oloron ou ailleurs. Néanmoins, eh bien, on constate à Bayonne une présence, jusqu'à une date récente, de religieux extrêmement actifs, comme les Capucins, qui, je crois, viennent de quitter la ville, les Bétharamites de Saint-Louis de Gonzague, les Frères des écoles chrétiennes de Saint-Bernard, les Carmélites, sans oublier le voisinage des Servantes de Marie à Anglette, du Père Sestac, qui est un Bayonnais pur sang. Alors, la ville, même si ça n'est pas spécifique au niveau des religieux, reflète cette présence épiscopale par quelques lieux qui en font véritablement un élément important. D'abord, l'évêché. Alors bien sûr, je crois que l'évêché n'est plus un palais épiscopal. Et c'est vrai que l'évêché est probablement, je pense, aujourd'hui une grande demeure qui n'a rien d'un palais. Néanmoins, je pense que pour tout le département des Basses-Pyrénées, oh pardon, des Pyrénées-Atlantiques, mais je suis à cheval dans mon exposé, des Pyrénées-Atlantiques, c'est une adresse importante, même si ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ne savent pas trop où c'est tout de même un lieu symbolique et l'histoire est faite de beaucoup de symboles au niveau des mentalités. Alors je crois, tout à l'heure, M. Idiard très gentiment m'a donné une note sur l'évêché de Bayonne qui se retrouve finalement pratiquement au même endroit, semble-t-il, qu'avant la séparation, ce que je n'arrivais pas à comprendre, et je le remercie de m'avoir enlevé des doutes, parce qu'à Bordeaux, l'archevêché ne cesse de se promener. Alors effectivement, il a fallu que je fasse un effort d'acculturation. Il y a eu 4 archevêchés à Bordeaux et dans des quartiers totalement différents. Alors le premier étant le palais Rohan, mais ça fait bien longtemps que les archevêques de Bordeaux l'ont abandonné, comme vous vous en doutez. Deuxième élément, bien entendu, dans la cathédrale, le chapitre cathédrale. Alors bien sûr, aujourd'hui, le chapitre cathédrale a perdu de son importance. Il existe toujours, je crois que des chanoines sont toujours nommés, mais depuis Vatican II, il est évident que le rôle du chapitre cathédral n'a plus l'importance qu'il avait précédemment, car s'y est substitué le conseil presbytéral qui est élu par les prêtres. Cependant, je crois que la présence du chapitre cathédral a comme symbole l'habitation de l'église cathédrale. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois que dans la ville épiscopale d'avant Vatican II, le chapitre cathédral avait des fonctions outrepassant peut-être ce qu'il était, puisqu'il était censé donner son avis aux évêques qui, dit-on, le lui demandaient. Mais actuellement, ce corps priant montre qu'il y a un corps de prêtres, peut-être retraités, je ne sais pas la situation bayonnaise, qui habite ce lieu de l'église mère d'un diocèse, l'église cathédrale 2, le lieu vers lequel on doit se tourner, car si les musulmans se tournent vers la Mecque, les catholiques ne doivent pas se retourner vers Rome. Ils doivent se retourner vers le siège de leur évêque. Et puisqu'ils le disent tous les dimanches, je crois dans l'église apostolique. Et c'est pourquoi je pense qu'il fallait rappeler ces réalités qui sont peut-être un petit peu oubliées. Alors, le séminaire, bon, a été longtemps une des gloires de la ville épiscopale de Bayonne. Aujourd'hui, les vocations sacerdotales se raréfient, mais j'ai vu des photographies encore et surtout des statistiques, car j'ai lu tout le bulletin diocésain de Bayonne. C'est une lecture intéressante, nous dirons, un peu rébarbative dans les temps plus anciens. Et ce sont des générations qui ont été formées ici, et les ordinations étaient le plus souvent conférées dans la cathédrale. Alors la séparation a semblé remettre en cause, je le disais tout à l'heure, cette présence épiscopale, de manière assez brutale et assez dramatique. Le dernier évêque, Monseigneur Concordataire, Monseigneur Geoffrey, meurt en 1802, et s'il n'a pas une bonne idée de mourir à ce moment-là, car les relations sont très mauvaises entre l'Église et l'État, et le siège reste vacant durant 4 ans. Et l'impression de vacuité se fait sentir, même si les vicaires capitulaires désignés par le chapitre sont des hommes extrêmement dignes. La physionomie de la ville épiscopale va changer avec le retour, évidemment, de l'évêque, Monseigneur Gieur, dont je vous parlerai tout à l'heure, bien sûr, plus longuement, et qui a beaucoup marqué et la ville et le diocèse. Les expulsions sont dramatiques, il y a de très nombreux incidents lors de l'expulsion du grand séminaire, lors de l'expulsion de l'évêché, mais, bien entendu, la structure demeure. Et après la séparation, les évêques réussissent à remonter le courant et à faire de la ville épiscopale la ville d'un siège désormais réputé important. Je crois que Bayonne a toujours été objectivement un siège important. Mais je crois qu'on s'en est peut-être rendu compte énormément au XXe siècle, puisque beaucoup disent, à la suite de Monseigneur Gieur, c'est l'un des meilleurs diocèses de France. C'est l'un des meilleurs diocèses de France, diocèse où règnent finalement les vocations sacerdotales, mais diocèse où règne aussi la concorde entre deux peuples totalement différents. J'avais pris la citation de l'encyclopédie Larousse de 1875, j'espère la retrouver, sinon je vais vous la dire de mémoire. Larousse, qui était républicain, dit dans les Basses-Pyrénées, dans le diocèse de Bayonne, vivent deux races extrêmement différentes qui n'ont entre elles que des sentiments de courtoisie, de bonté et de bonne entente. Alors, venant d'un républicain, cela montre que ce diocèse avait au moins cette caractéristique chrétienne, car au-delà évidemment des institutions qui font qu'il y a un diocèse unique et qu'il se maintient, je ne sais pas jusqu'à quand, je ne suis pas le souverain pontife, je dirais qu'il y a là l'un des meilleurs diocèses de France par cette entente chaleureuse que Pierre Larousse décrit lui-même. Alors, bien entendu, le diocèse de Bayonne est chargé, l'évêque de Bayonne, pardon, est chargé à partir de la ville épiscopale de maintenir cette unité. Cette unité Bayonne a une identité propre. C'est vrai que quand on arrive à Bayonne, je peux vous le dire, n'étant pas bayonnais, on est chaque fois surpris. C'est une ville qui a son identité. Et c'est cette ville qui a une identité composite qui est chargée de veiller à l'unité d'un diocèse encore plus varié. Cette ville peut paraître excentrée par rapport au diocèse, néanmoins, elle est bayonne, elle est basque, mais tout le monde sait qu'il y a un terroir gascon tout près et qu'il y a de très nombreux gascons à Bayonne. Et finalement, si l'évêque a voulu relever en 1909 les titres de Lescar et Oloron, siège qui avait disparu, c'était nullement dans l'idée de Mgr Gieure de remettre en cause l'unité du diocèse. Et j'ai constaté dans les signatures que les évêques de Bayonne, tout au long du XXe siècle, signent évêques de Bayonne, Lescar et Oloron. Alors que je peux vous garantir que l'archevêque de Bordeaux, oublié jusqu'au cardinal Haït, sûrement entraîné par Lescar et Oloron, oubliait Bazas tout le temps. Vous vous doutez que l'archevêque d'Aix-en-Provence n'est pas archevêque d'Aix-en-Provence, d'Embrun et de Senèse. Je pense qu'à Bayonne, il y a cette volonté constante de maintenir ces trois titres. Alors l'unité du diocèse est évidemment posée, mais il n'y a qu'un centre, et c'est cette ville épiscopale. L'abbaye Notre-Dame de Belloc aurait pu représenter une concurrence avec son abbé mitré. Eh bien non, l'abbé de Belloc a même renoncé à la mitre, je crois dans les années 60, c'est le père Jean-Pierre Inda, je crois, qui a renoncé à la mitre et qui disait « il n'y a qu'un évêque dans le diocèse, il n'y a qu'un centre dans le diocèse ». D'ailleurs, les relations sont extrêmement confiantes entre l'évêque de Bayonne et cette abbaye. La ville épiscopale donne la fête de Saint-Léon comme fête diocésaine. Après tout, c'est un saint apocryphe, mais un saint de la ville de Bayonne, et non pas de l'ensemble du diocèse. Début mars, le premier de préférence, vous savez mieux que moi, que l'évêque présidait à ces fêtes pittoresques et tout à fait suivies avec une procession qui structurait l'espace urbain. Il faudrait développer ce type d'idée, même si la figure de l'évêque Léon reste quelque peu incertaine. Alors évidemment, l'unité à partir de la ville épiscopale n'exclut pas la dualité. Je crois que deux archidiacres, puis deux vicaires généraux, ont toujours gouverné le Pays basque et le Béarn. Néanmoins, la présence d'un évêque auxiliaire n'a été retenue dans le diocèse que pendant quelques années, en résidence à Pau. Je crois que, je ne sais pas pourquoi, et personne ne pourra le dire ce soir, car nous sommes dans de l'histoire extrêmement contemporaine, c'est une simple remarque externe que je fais, il n'y a pas un deuxième centre diocésain, même si Pau, et il suffit de lire le bulletin diocésain sur 100 ans pour s'en rendre compte, est très cher au cœur des évêques de Bayonne, qu'ils y vont souvent, qu'ils y résident, que l'église Saint-Martin de Pau a souvent leur visite, ça n'est pas leur siège. Et la présence d'un évêque auxiliaire a été, je dirais, quelque peu supprimée. Alors, évidemment, la cathédrale est le lieu de cette unité, et je parlais tout à l'heure de l'importance des grandes ordinations du diocèse de Bayonne. Et ces ordinations du diocèse de Bayonne, dans le sympathique livre de Mgr Etchegaray sur Mgr Terrier, on voit Mgr Terrier procéder à une ordination où les prêtres se présentent deux par deux. C'était véritablement un cœur diocésain qui avait lieu ici. Mais vous le savez, récemment, la cathédrale a été le lieu aussi d'une unité, lieu de l'ordination d'évêques. Et à l'époque récente, plus peut-être encore significative qu'aux époques précédentes. Par exemple, beaucoup d'entre vous se souviennent probablement de l'ordination de Mgr Samakari. Et, excusez-moi de parler de l'ordination de Mgr Moller, qui fut très caractéristique. J'ai repris le livret de l'ordination de Mgr Moller, puisque de nombreux chants étaient donnés en basque, et bien sûr en français, et que l'évêque, pour la première fois, comme la vieille tradition apostolique d'ailleurs le suggère, était ordonné dans sa cathédrale. Il était coadjuteur, certes, en 1986, mais il y a là, si vous voulez, un retour, d'une certaine manière, à la grande tradition. Et puis, il y a un autre élément qui en dit long, je crois, sur cette présence épiscopale dans la ville, ce sont les manifestations propres entourant l'évêque à son arrivée. Alors, les historiens d'histoire moderne, brillamment représentés ici par certaines personnes, travaillent beaucoup les entrées royales et les entrées épiscopales à l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'en 1789. Mais si l'on regarde le diocèse de Bayonne, à l'exception de la prise, je dirais, de fonction de Mgr Moller, qui est sacré dans sa cathédrale conformément à Vatican II, les précédents évêques font des entrées solennelles dans Bayonne. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent certainement, en fonction de leur âge. Cette ville radicale, cette ville où il y a beaucoup de communistes, dit le curé de Saint-André, à la fois dans l'entre-deux-guerres et après la guerre, fait, comme on dirait vulgairement, un tabac aux évêques qui prennent leurs fonctions. L'entrée solennelle de Mgr Gieure, après 4 ans de vacances du siège, est un véritable triomphe. Il fait une entrée qualifiée, je cite, de spectacle des plus pittoresques par l'illustration le 20 mars 1906, en arrivant à la gare du Midi et en passant par la Porte de France. Les ponts sur la Dour et sur la Nive disparaissent sous les personnes qui acclament leur évêque. C'est une véritable démonstration pour montrer que l'évêque rentre dans la ville épiscopale. Alors, Mgr Gieure, bon, n'est remplacé qu'en 1935 par Mgr Houbeau. Mais là encore, l'entrée est des plus conviviales. Non seulement cette fois-ci, l'évêque est accueilli par la foule des catholiques et probablement des badauds, à la gare, mais encore, alors que Pie XI et la République française améliorent leurs relations de manière très sensible en 1935, Mgr Houbeau est accueilli par le maire Simonet comme étant la plus représentant, je cite, de la plus haute autorité spirituelle du monde. Alors il y a plus de simplicité, bien sûr, mais là encore, c'est un accueil officiel, et cette fois-ci avec la présence du maire, pour la première fois. Même rituel pour l'arrivée de Mgr Van Stenberg en 1940, avec plus de simplicité, car la guerre est là. Alors je ne vous parlerai pas de l'arrivée de Mgr Terrier, qui est arrivé en voiture, je vous parlerai de la nomination de Mgr Terrier tout à l'heure, qui est beaucoup plus surprenante que son arrivée, mais beaucoup de personnes ici, même sans être très âgées, se souviennent de l'entrée solennelle de Mgr Gouillon. Mgr Gouillon, en 1957, depuis la statue de la Vigerie, grand bâillonné, jusqu'à la cathédrale, obtient un véritable triomphe, et là encore, je crois que c'est véritablement la présence du maire qui est là, sud-ouest, sous la plume experte de M. Manuel Plane, rappelé à propos de la mort de Mgr Gouillon que celui-ci avait occasionné la blessure du docteur Delay, qui était tombé dans un trou, maire de Bayonne, dans un trou, dans l'enthousiasme de l'arrivée de l'évêque, détail absolument pittoresque, nous dirons. Et cette arrivée montre que l'évêque est admis, même si la ville est totalement laïque et complètement, bien sûr, séparée de l'État. Alors, ces entrées solennelles m'amènent à passer au deuxième point de mon exposé. Quels sont donc les évêques qui ont illustré, après ces entrées solennelles, la ville épiscopale, et que peut-on dire des grandes figures épiscopales de Bayonne? Alors, je dirais que sur ce chapitre des évêques de Bayonne, nous avons le travail très remarquable de Philippe Fabas, qui a fait une thèse tout à fait excellente sur le diocèse de Bayonne et que je m'en suis beaucoup inspiré. Mais comme il le sait, j'en avais le droit puisque j'avais dirigé la thèse. C'est lui qui a fait le travail, mais c'est moi qui pouvais utiliser les portraits. J'ai simplement complété sur les évêques les plus récents, bien entendu, et sur Mgr Van Stenberg, qui, je crois, aujourd'hui mérite qu'on en parle beaucoup. Alors, les figures épiscopales de Bayonne sont des figures importantes qui jouissent toutes d'une grande réputation lorsqu'elles sont nommées sur ce siège. Le dilemme n'est important pour le Saint-Siège, qui nommer à Bayonne? La question se pose chaque fois. Elle est beaucoup plus compliquée que pour d'autres diocèses. On a parlé de cette symbiose harmonieuse, au moins dans l'Église, des Basco-Béarnais, de la singularité de ce diocèse, de son importance numérique dans l'Église. Importance numérique qui a été longtemps très forte, mais qui tout de même aujourd'hui se manifeste encore par un chiffre qui est stupéfiant. Sur 4 cardinaux français, 2 sont originaires des Pyrénées-Atlantiques et du diocèse de Bayonne. Alors, c'est vous dire, c'est peut-être un fait de hasard, mais c'est vous dire l'importance du siège. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Soit on nomme quelqu'un venant de très loin, soit on nomme une personnalité venant de très près et pouvant avoir une sensibilité sur le diocèse. Deux évêques sont landais, tous les deux nommés dans une période très délicate. Mgr Gieur, juste après la séparation, et Mgr Moller, juste après la grande crise qui a suivi Vatican II, sans que Vatican II n'y soit pour rien. C'est une grande crise de civilisation. Autrement, on trouve parmi les évêques de Bayonne un Bordelais qui ne reste pas. Je ferai quelques commentaires tout à l'heure sur ce point. Et puis on trouve un Lorrain, un Savoyard, un Flamand et un Stéphanois. C'est-à-dire qu'au milieu du siècle, on a nommé des évêques en fonction non point des caractéristiques du siège de Bayonne, très souvent, mais en fonction de la personnalité que l'on souhaitait nommer. Alors que je crois qu'au début et à la fin du siècle, le siège de Bayonne est vraiment plus pris en considération en tant que tel par ceux qui désignent au Saint-Père la nomination. Alors vous savez que la nomination est faite par le pape personnellement, sur proposition du donce, sur proposition des évêques de la province, après de très larges consultations, et après que le gouvernement français ait donné avis favorable. Il n'a pas le droit de proposer, il peut récuser. Il paraît qu'il ne l'a jamais fait au XXe siècle, à vérifier. Alors, comme les autres diocèses, si Bayonne envoie des évêques à l'extérieur, elle reçoit son évêque de l'extérieur. Alors, je vais vous dire quelques mots de chacun des évêques de Bayonne, car ils ont été, je crois, tous dans vos mémoires. Alors, Mgr Gieur commence à être oublié, bien sûr, et c'était un ultramontain, tout à fait tourné vers Rome, et il était supérieur du grand séminaire d'Aire. Je reviendrai sur le sort d'Air en conclusion. Il a été sacré personnellement à Saint-Pierre de Rome par le pape Pie X, et c'est donc un évêque de résistance que l'on envoie à Bayonne. C'est un évêque qui doit résister à la laïcité et qui a affaire dans sa ville épiscopale à une municipalité radicale, anticléricale. Il a essayé d'intervenir, nous le verrons tout à l'heure, et il aurait mieux fait de s'en dispenser. Il a été vicaire capitulaire d'Air en 1905 et il aurait été proposé par l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Lecot. Mais je n'ai trouvé cela nulle part. Et dans les casiers du cardinal Lecot, il n'y a aucune lettre avec Monseigneur Jure. Il se retire pour raison d'âge à 83 ans et il meurt, vous le savez, en 1937. Vous le savez ou ne le savez pas, mais les plus anciens le savent peut-être. Alors l'évêque est très présent dans la ville de Bayonne et il est très présent dans le diocèse. C'est lui qui demande que l'on étudie les langues régionales au séminaire en 1923. Langue régionale, entendez le basque et le béarnais, quoique elle n'ait pas le même statut linguistique, comme vous le savez, du tout. C'est lui qui pousse des évêques venant du diocèse. Il veut que Bayonne rayonne à l'extérieur. C'est lui qui pousse, par exemple, Monseigneur Clément Mathieu, qui est presque bayonnais, puisqu'il est né à Villefranche, comme évêque d'Air et d'Aix. Et Monseigneur Mathieu s'est considéré toute sa vie comme le fils spirituel de Monseigneur Jure. Son gouvernement bayonnais est un gouvernement de défense religieuse, nous dit Philippe Fabas, mais c'est en même temps un gouvernement d'obéissance absolue au pape. Et c'est ainsi qu'il intervient dans la ville épiscopale. En effet, dans la ville épiscopale, il y a un fort groupe d'Action française. Il y a deux foyers d'Action française importants dans les années 20 dans les Basses-Pyrénées, Pau et Bayonne. Et lorsque le pape Pie XI condamne l'Action française, Monseigneur Jure, pourtant réactionnaire, obstiné, exige que les gens d'Action française à Bayonne se soumettent. Et il y avait 500 personnes dans la section d'Action française de Bayonne-Biarritz, ce qui est tout de même quelque chose de considérable. Alors, c'est évidemment une figure très importante de l'histoire diocésaine qui a laissé un souvenir fervent très longtemps dans le diocèse. Cependant, il faut noter que c'est durant cet épiscopat qu'il y a à la fois un énorme renouveau diocésain avec des constructions importantes et en même temps, dans les enquêtes religieuses, un début très sensible de détachement de la pratique, spécialement dans les villes. Mais qui pouvait l'évêque ? C'était une évolution très importante.
Bayonne, ville épiscopale au XXe siècle, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Marc Agostino, historien spécialisé en histoire religieuse, professeur à l'université de Bordeaux 3. Une intervention enregistrée le 17 novembre 2000 dans le cadre de la manifestation « Un siècle de vie à Bayonne ». Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie, la semaine prochaine, même jour, même heure.